Deuxième leçon de la Bible pour tous, aux éditions Teki, revue par Mgr Serfaux, professeur à l'université de Louvain et consulteur de la commission biblique, fondée en 1905. Et première édition en 1953 et réimprimée en 1975 et puis en 2016 à la librairie Teki, rue de Mézières, à Paris. Page 5, nous avions vu en note, une note que nous allons développer. Dieu créa encore d'autres êtres intelligents, après les 6 temps de la création, hein, pas 6 jours de 24 heures, puisque je vous avais fait remarquer que c'est au 4e jour que le soleil et la lune sont stabilisés pour la planète Terre, et donc on ne peut pas avoir des jours de 24 heures avant. C'est évident. Encore faut-il le dire, par rapport à ce qu'on appelle les concordistes, ou aussi un brave homme qui s'appelait Crombette, et qui fait des interprétations de la Bible extrêmement, parfois maladroites, d'autres bien, mais n'ayez pas peur. Alors la petite note nous indique la création des anges. Page 5. Dieu créa encore d'autres êtres intelligents. Ce sont les anges. La Bible ne nous dit rien de leur origine. Mais elle nous dit qu'ils existent. C'est l'Église qui nous enseigne qu'ils furent soumis à une épreuve. Les anges fidèles se rallièrent autour de l'archange Michel, que nous avons fêté dimanche, 29 septembre. Le premier, il se leva dans le ciel en criant « Qui est comme Dieu ?» Il combattit et précipita en enfer Satan et ses légions. Légions, ça veut dire un grand nombre, hein, c'est 6000 hommes dans l'armée romaine, dont l'orgueil se révoltait contre Dieu. Depuis lors, un seul désir anime les mauvais anges ou démons, exciter les hommes à se révolter contre Dieu. Donc, maintenant, introduction. Les anges, un sujet d'actualité dans notre monde sans repère et à la recherche de paranormal et de surnaturel. Oui, sans doute. Ce n'est pas moi qui ai rédigé ce texte. Je ne sais plus où je l'ai copié. Cependant, il nous faut savoir que les anges ne sont rien par eux-mêmes, étant donné qu'ils n'existent que par Dieu et pour Dieu. Si nous voulons en apprendre plus sur eux et peut-être aussi découvrir leur action dans notre vie, il est impératif que dans ce sujet particulier, nous nous situions par rapport à Dieu, créateur de toutes choses, et que nous prenions aussi le temps de regarder l'histoire de son peuple au fil des siècles. Cette histoire, que nous en trouvons la trace dans la Bible, c'est pourquoi ce livre est à la base de cette recherche et de cette année de catéchisme. On pourrait penser que les anges sont intervenus dans la vie du peuple de Dieu, du peuple juif, qu'avant la venue de Jésus-Christ, mais il n'en est rien. Nous les retrouvons en effet au cours de sa vie, par la suite, les apôtres eux-mêmes en seront témoins, et ainsi tout au long de l'histoire de l'Église, nous pouvons les voir intervenir, notamment lors des apparitions mariales, comme à Fatima ou la rue du Bac. Nous ne parlerons que de quelques-unes de ces apparitions, celles reconnues intégralement par l'autorité ecclésiastique. Dès à présent, toutefois, il est important de définir le sens de cette étude. Elle est faite pour nous aider à comprendre que le monde invisible existe et que par lui, Dieu nous donne le moyen de mieux répondre à son amour dans notre vie quotidienne. Il est tout aussi important de noter dès maintenant que cette étude ne doit en aucun cas amener à un culte particulier, voire exclusif des anges. Vous voyez, il y a des personnes, ils ne parlent, ils ne pensent que pour les anges. Donc il y a un vrai danger à faire de la démonologie le cœur de sa religion. Hein. Et du coup, si certains d'entre vous ont donné un petit nom à leur ange gardien, très bien. Mais en soi, ce n'est pas nécessaire. Moi-même, je n'ai pas voulu lui donner un nom. Alors même qu'il paraît que les prêtres en ont deux, un ange gardien et un ange ministériel, en tant que prêtre. Vous voyez ? Que dire alors d'un évêque ? Il en a trois peut-être, ou alors c'est son ange en tant que prêtre qui est remplacé par un... Comme je vous l'avais dit dans une petite histoire vraie, il y avait une sainte femme comme le Padre Pio qui avait giflé un prêtre qui lui disait « Oh, les anges !» Il l'avait giflé et ensuite il lui a dit « Ah, mais je le vois, le tien, et il est très beau. » Vous voyez ? Donc lui, il a eu une évangélisation sur l'existence des anges un peu rude. Et puis vous avez donc cette sainte femme, une mystique, dont je ne me rappelle plus du tout du nom, et pourtant je l'ai su. Elle reçoit un ami prêtre qui vient avec un autre ami, un de ses amis. Et elle lui dit « Ah, bonjour monsieur l'abbé, enfin, bonjour monseigneur, et bonjour monsieur l'abbé. » Et l'ami de ce prêtre lui dit « Mais comment savez-vous que je suis évêque nommé ?» Dès que vous êtes, la nonciature vous appelle et vous dit « Le pape vous a choisi pour être évêque », si vous dites « J'accepte », vous êtes évêque nommé. Et elle lui dit « Parce que l'ange de votre diocèse est avec vous. » Faut-il encore voir les anges habituellement ? Et donc, lorsque vous collectionnez toutes les histoires d'anges, à la fin, vous ne pensez qu'à votre ange gardien, vous oubliez la Sainte Trinité, la Vierge Marie, votre saint patron. Voilà. Mais il est vrai qu'une piété religieuse sans une vénération des anges est lacunaire. Voilà. Mais au contraire, une rencontre plus personnelle avec Dieu, dans notre reconnaissance de sa puissance et de son amour par ses envoyés. Angelus, ça veut dire envoyé. Il serait souhaitable, au contraire, que ces quelques pages nous aident dans notre obéissance à la loi divine et dans notre vie de service auprès de tous ceux qui nous entourent, car nous sommes tous, et au même titre, enfants de Dieu. Notons aussi que cette étude ne se prend pas, loin de là, pour une thèse théologique. Elle serait à ce titre incomplète, par contre, elle se veut une rencontre avec la création du Père et avec le Père lui-même, car en effet, à quoi pourrait bien servir la connaissance si elle ne devait pas déboucher sur une relation d'amour avec Dieu ? Puisse donc l'Esprit Saint, à travers ces quelques pages, nous aider à découvrir Dieu, à l'aimer à travers tout ce qu'il nous offre. Les anges et l'histoire. Avant de voir de plus près qui sont les anges et quel est leur rôle, il est bon d'en suivre la trace dans l'histoire du peuple de Dieu. Et cela jusqu'à nos jours. En effet, les anges, comme nous le verrons au fil de cette étude, n'ont pas été créés pour un court temps de l'histoire terrestre, mais bien pour l'éternité divine, dont nous sommes les héritiers en tant qu'enfants de Dieu. Au début de l'histoire, il est question de l'ange de Yahvé. Yahvé, ça veut dire « je suis » en hébreu. Et c'est un nom sacré que les juifs pieux, suivant la tradition synagogale, n'ose pas prononcer. Vous voyez ? Donc on dira l'Éternel. Et Jéhovah est une vocalisation par des voyelles absurde pour un hébreu, pour un juif. Donc dès qu'il voit Jéhovah, il s'arrête de lire. Vous voyez ? C'est comme si on disait tibleau au lieu de table. Vous voyez ? J'ai posé le verre sur là et il lit, il voit tibleau. Au lieu de table. Ils mettent des voyelles absurdes à Yahvé pour s'arrêter dans la lecture. Ce qui fait que les témoins de Jéhovah, les pauvres, ils ont pris les voyelles fausses et eux les ont gardées. Enfin, pour dire Jéhovah. Mais Jéhovah, pour un juif, ça le fait rire parce que ça veut rien dire. C'est Yahvé. C'est pour pas prononcer Yahvé. Je suis. Et d'ailleurs, il y a quelques années, le Saint-Siège avait voulu, par respect pour le respect religieux des Juifs vis-à-vis du nom de Dieu, vouloir qu'on ne dise pas Yahvé lorsqu'on lit la Sainte Écriture ou à haute voix dans la liturgie. Mais bon. Seulement, voyez-vous, ce n'est pas ce qu'on prononce qui est important, c'est ce que nous vivons et que nous croyons. Donc si c'est avec respect qu'on dit Yahvé, comme on dit avec respect le mot Dieu, on peut le faire. Moi j'avais des collègues, des confrères juifs dans ma classe, et quand il y avait dans une composition en français Dieu, ils mettaient D, trois petits points. Il n'écrivait même pas le nom de Dieu. Alors vous avez une place ici. Cet ange n'est pas un ange distinct de Dieu, car c'est alors Dieu qui prend une forme visible pour apparaître aux hommes et leur faire connaître sa volonté. Il en est ainsi dans l'histoire d'Agar, Genèse 16, Genèse 21, puis dans le sacrifice d'Isaac, Genèse 22. Alors là, c'est une interprétation un peu particulière. L'ange de Dieu ou l'ange de Yahvé, pour le prêtre qui a fait cette étude, ce n'est pas, un ange, c'est Dieu lui-même. Celui qui parle à Agar ou celui qui parle à Isaac, c'est un ange, c'est pas Dieu lui-même. Voilà. C'est pas moi qui ai écrit ça, mais ça me permet de commenter et de vous expliquer certaines choses. Il en sera de même dans l'épisode du buisson ardent, ou encore lorsque Dieu veut avertir son peuple des malheurs à venir. Alors là, pour le coup, dans le buisson ardent, Exode 3, de fait, on ne dit pas que c'est un ange qui parle. Il y a une voix qui parle depuis le buisson qui brûle sans se consumer. Donc là, c'est Dieu. Vous voyez ? Donc, ce sont des interprétations de biblistes. Bienvenue dans la lecture de la Bible, où on fait la brasse couler la plupart du temps. Et donc, il faut faire très attention. L'interprétation doit être l'interprétation catholique, tout simplement. C'est la raison pour laquelle, pendant des siècles, on vous a dit de ne pas lire la Bible, parce que c'était dangereux d'interpréter la Bible à sa façon. Et d'ailleurs, dans le protestantisme actuellement, vous avez plein de petites branches dans tous les sens à cause de ça. Dès que vous avez un qui est plus génial que les autres, il donne une explication, il en construit une, et dit, ben voilà, je suis presbytérien. Ah ben moi, je suis quaker. Ah ben moi, je suis, pentecôtiste, calviniste, luthérien de stricte observance, et moi je suis... Et ça, on n'en finit plus. Voyez. Ou encore, lorsque Dieu veut avertir son peuple des malheurs à venir, dans le livre des juges. Quelle est l'histoire d'Agar? L'histoire d'Agar, c'est lorsque... Donc c'est un peu une anticipation, mais c'est une lecture de la Bible que nous faisons cette année. C'est quand Dieu a suscité Abraham, et il l'appelle encore Abram, père, et Abraham, père d'une multitude. Et il lui a dit, alors lui, comme Dieu lui a promis une descendance extraordinaire, et qu'il n'avait pas d'enfant et que Sarah, sa femme, était stérile, alors il use de cette concession dont le Christ dit que c'est une concession à la dureté de cœur des hommes, il prend une femme de second rang. Il est polygame, Abraham. Et ainsi, il a des enfants avec sa seconde femme. Mais Dieu lui parle à nouveau et lui dit « Non, 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 c'est avec ta femme première ». La préférence divine, que tu auras cet enfant. Genèse, chapitre 16, de 3 à 13. Au bout de 10 ans, qu'Abraham résidait au pays de Canaan, sa femme Sarah prit Agar, une égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari, parce que la femme de premier rang fait l'entremetteuse, parce que les enfants de la femme de deuxième rang sont des enfants du mari. Et comme elle est femme de premier rang, c'est aussi, d'une certaine manière, ses enfants. Et vous avez, dans un film sur Abraham, que je vous présentais peut-être à un moment donné, j'en ai les DVD, je crois, c'est peut-être cette version, eh bien, vous avez une coutume, je ne sais pas si elle existait du temps d'Abraham, et qui est représentée dans ce film. Vous avez la femme de premier rang qui est assise, et la femme de second rang qui est assise sur elle, et elle enfante, c'est la... comment on dit ? Donc, elle accouche, mais assise sur la femme de premier rang, donc l'enfant qui sort d'elle est comme celui de la femme de premier rang, puisqu'elle est assise sur l'autre. Vous voyez ? C'est vraiment des constructions juridiques planique, impressionnant. Comme quoi, le droit ceci, se... là partout. C'était une GPA de l'époque, une gestation pour autrui. Sauf qu'elle était totalement juridique pour une descendance de la première femme stérile. Donc, elle donna sa servante Agar l'Égyptienne, une pure cananéenne, par rapport aux Sémites, qu'est Abraham et Sarah. Celui-ci alla vers Agar, qui devint enceinte. Lorsqu'elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Alors Sarah dit à Abraham, « Tu es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai mis ma servante entre tes bras, et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que Yahvé juge entre toi et moi. » Abraham dit à Sarah, « Eh bien, ta servante est entre tes mains. Fais-lui comme il te semblera bon. » Hein, c'est un type d'esclavage, hein. Enfin, une servante comment dire, qui obéit au doigt et à l'œil et qui peut pas partir. C'est une esclave. Hein. Sarah la maltraita tellement que l'autre s'enfuit de devant elle. L'ange de Yahvé la rencontra près d'une source au désert, la source qui est sur le chemin de Sûr. Il dit, « Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu ?» Elle répondit, « Je fuis devant ma maîtresse Sarah. » L'ange de Yahvé lui dit, « Retourne chez ta maîtresse et sois-lui soumise. Je multiplierai beaucoup ta descendance, tellement qu'on ne pourra pas la compter. Tu es enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom d'Ismaël, car Yahvé a entendu ta détresse. Celui-là sera un onagre d'homme, sa main contre tous, la main de tous contre lui, il s'établira à la face de tous ses frères. Un onagre, c'est un âne sauvage dans le désert. » Là, les Cananéens sont présentés, et les Arabes cananéens, et non pas sémites, sont présentés de manière un peu sévère. Bon. À Yahvé, à qui lui avait parlé, Agar donna ce nom. « Tu es Elroy, car, dit-elle, ai-je encore vu ici après celui qui me voit ?» Genèse 21. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham, parce qu'entre-temps Dieu lui confirme sa promesse et change son nom, fit un grand festin le jour où l'on sevra Isaac. Ah, alors là, c'est l'enfant de la promesse qui est née. Or, Sarah aperçut le fils né à Abraham de l'Égyptienne Agar, qui jouait avec son fils Isaac. Donc, je vous resitue, puisque ce sont des extraits de la Bible. Donc, Abraham désespère d'avoir un enfant, sa femme Sarah aussi. Elle place son esclave Agar pour qu'elle ait des enfants de substitution. Dieu dit à Abraham, c'est de toi que viendra la descendance et de ta femme légitime, enfin de premier rang. Et Sarah, qui entendait ça, dit, bah, j'ai 80 ans, c'est fini. Il s'appellera Rire, parce que tu n'as pas cru et que tu t'es moqué, tu as ri. Et Isaac va naître un an plus tard. Et donc il va grandir. Mais du coup, l'enfant d'Agar, Ismaël, se retrouve décalé en honneur. Et Sarah voit d'un mauvais œil, du coup, maintenant Ismaël. C'est plus son enfant de deuxième rang. Et elle a un enfant de premier rang. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils. Il ne faut pas que le fils de cette servante hérite avec mon fils Isaac. » Cette parole déplut beaucoup à Abraham, mais Dieu lui dit, « Ne te chagrine pas à cause du petit et de ta servante. Tout ce que Sarah te demande, accorde-le, car c'est par Isaac qu'une descendance perpétuera ton nom. Mais du fils de la servante, je ferai aussi une grande nation, car il est de ta race. » Donc imaginez un peu les Arabes qui sont mi-sémites, mi-cananéens. Eux, quand ils lisent ça, ils disent, voilà. Et ils vont même jusqu'à substituer Isaac par Ismaël pour le sacrifice. sur le mont Moria. Alors que c'est Isaac qui a failli être sacrifié et non pas Ismaël. Parce qu'Ismaël, il est chassé dans le désert avec sa maman, mais Dieu avait rassuré. Regardez un peu la dureté des mœurs de l'époque. Donc si vous lisez ça au premier degré, hein, vous dites, c'est possible. Voilà. D'abord, je vais être polygame, comme les mormons, qui lisent la Bible à l'envers. Voilà. Parce qu'ils ne lisent pas totalement le Nouveau Testament. Donc ils lisent comme ça, et à la fin, ils disent, on peut être polygame. Mais s'ils vont jusqu'au bout, on peut aussi renvoyer sa femme. Mais là, si vous voulez, c'est une permission divine à cause de la dureté. Et Abraham est un saint. Oui, mais enfin, c'est des gens trempés avec des mœurs redoutables, hein, fortes. Mais ils ne font pas de sacrifice humain. C'est déjà pas mal. Ils sont au milieu de peuples qui, pour avoir de la chance, mettent un bébé vivant dans les fondations des maisons. Sûrement pas les leurs, hein. En général, les enfants des servantes ou des esclaves. Et donc, Abraham se leva tôt, il prit une outre d'eau et du pain qu'il donna à Agar, et il mit l'enfant sur son épaule, puis il la renvoya. Répudiation. Elle s'en fut errée au désert de Bersabée. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant sous un buisson, et alla s'asseoir vis-à-vis, loin comme d'une portée d'arc. Elle se disait en effet, « Je ne veux pas voir mourir l'enfant. » Vous voyez, c'est pas qu'elle soit une mauvaise mère, mais d'avoir l'enfant dans ses bras lorsqu'il va mourir, c'était trop pour elle. Elle le pose près d'un buisson à l'abri du soleil, et elle va mourir plus loin. Comme ça, les deux mourront paisiblement. Et donc, elle se disait, elle s'assit vis-à-vis et elle se mit à pleurer. Imaginez que vous lisiez ça tout seul. Alors moi, je veux lire la Bible, hein, c'est la parole de Dieu. L'Église catholique, elle nous en a privé pendant des siècles. Moi, l'Esprit Saint est avec moi, hein, je vais l'interpréter. Vous lisez ça et vous dites, mais Abraham était vraiment un saint. Oui, puisqu'il est chagriné, mais il le fait quand même. Hein. Donc, c'est dur, hein. Dieu entendit les cris du petit, et l'ange de Dieu appela du ciel. Qu'as-tu, Agar ? Attention, hein, dans la foi catholique, dans la foi synagogale, et même chez les musulmans, ce passage est authentique. Elle a entendu la voix de Dieu comme Adam et Ève entendaient la voix de Dieu. Comme Bernadette a entendu la voix de Marie. C'est un miracle. Voilà. Ne crains pas, car Dieu a entendu les cris du petit là où il était. Donc vous voyez bien que son interprétation comme exégète est fausse. Parce que, voyez-vous, Dieu ne peut pas parler de lui-même. Vous voyez ? C'est un ange qui lui parle. Quand Dieu parle de lui-même, il n'est pas schizophrène. Hein. Quand le Père parle à Jésus devant tout le monde, il dit « Celui-ci est mon fils, écoutez-le. » Il ne dit pas « Dieu dit que c'est son fils, écoutez-le. » Quand Dieu parle directement, au mont Sinaï, ce n'est pas l'ange du Seigneur qui parle, hein, c'est Dieu lui-même. Hein. Et donc là, ici, c'est un ange. Ne crains pas, car Dieu a entendu les cris du petit, là où il était. Debout, soulève le petit et tiens-le ferme, car j'en ferai une grande nation. Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire le petit. Dieu fut avec lui, il grandit et demeura au désert. Donc vous voyez, l'Arabie Saoudite, vous voyez, les descendants d'Ismaël, ils sont là, ils font... Alors nous, on va se venger, hein, voilà. Bon, alors c'est particulier. Vous avez des Arabes qui sont très conscients d'être à moitié cananéens, à moitié sémites. Parce que, pop, vous avez Adam, Ève, Noé, goulot d'étranglement, Sem, Cam et Japhet, Sem, Cam, les Cananéens, les Philistins, les Égyptiens, les Arabes, et puis hop, une connexion avec Hébert, les Hébreux, jusqu'à Abraham, et Abraham a un fils avec une Cananéenne. Donc vous avez des mi-Cananéens, mi-Sémites. Et ces peuples-là le savent très très bien. Oui. Genèse 21. Le sacrifice d'Isaac, un peu plus loin, donc alors que Isaac est grand, Dieu le met à l'épreuve de son obéissance. Donc à la même, vous voyez, vous lisez la Bible comme ça, et bien finalement je peux tuer mon fils. Voilà. Comme c'est la blague de Raymond Devos, hein, il est là, il dit « Ah, Dieu m'a parlé, il m'a dit « Sacrifie-moi ta femme ». Alors j'ai obéi. Donc il a pris sa femme, et là, il l'a mis sur un bûcher, et dit « Voilà, vous voyez, plutôt que de divorcer, c'est vrai que c'est une méthode. Mais je ne sais pas si les policiers ont accepté sa version. » Sacrifice d'Isaac. Abraham prit le bois. Alors, Dieu lui dit « Sacrifie-moi ton enfant, redonne-le-moi ». Vous vous rendez compte, toute cette histoire, les promesses, Agar, Ismaël, et cet enfant, il faut le redonner à Dieu. Et bien, il accepte. Et comme le dit saint Paul, c'est qu'il croyait qu'il ressusciterait. Mais quand ? Abraham prit le bois de l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Et bien sûr qu'Isaac est la figure du fils. Et Abraham est la figure de Dieu le Père, qui sacrifie son propre fils pour sauver les autres. Il demande, mais c'est pas seulement par justice, mais c'est par miséricorde aussi qu'il demande à son fils de mourir. Donc ici, Abraham est confondu, parce que le vrai Dieu lui demande un sacrifice humain. Mais fondamentalement, Dieu y a droit. Ce qui fait que vous avez des spécialistes en religion qui disent, oh, il ne faut pas jeter la pierre aux Incas, qui faisait des sacrifices humains. Parce qu'en soi, en religion, Dieu peut réclamer la vie. Sauf que le vrai Dieu, il l'a fait une seule fois pour mettre à l'épreuve et il n'est pas allé jusqu'au bout. Tandis que les Incas, eux, ils allaient jusqu'au bout souvent et beaucoup, de nombreuses fois. Vous voyez ? Non. Et c'est contraire à la volonté de Dieu fondamentale, qui veut la vie, le bonheur. Donc c'est une mise à l'épreuve. Lui-même prit en main le feu et le couteau. Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Isaac s'adressa à son père et lui dit, « Mon père, » il répondit, « Oui, mon fils. »« Eh bien, » reprit-il, « voilà le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Et ils allèrent tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu leur avait indiqué, et où sera l'autel des sacrifices du temple de Jérusalem, et où se trouve la mosquée du Dôme, actuellement. Abraham y éleva l'autel et déposa le bois, puis, surprise, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Il s'est laissé faire, hein. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange de Yahvé l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. L'ange de Yahvé appela une seconde fois Abraham du ciel et dit, ah, là pour le coup, c'est Dieu lui-même. Donc, amende honorable, enfin, c'est particulier. Hein. L'interprétation de la Sainte Écriture est parfois très délicate. Je jure par moi-même, parole de Yahvé. Alors là, c'est Dieu qui parle. Et c'est beau hein, de vous dire que dans l'histoire humaine, Dieu a parlé aux hommes. C'est pas rien. Parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre, parce que tu m'as obéi. » Et nous voici. Bon, parmi vous, il y a peut-être des personnes qui sont juives de descendance. Tant mieux. Mais nous, nous sommes bénis par Abraham aussi. Voilà. Genèse 22, 6, 19. Quelques siècles plus tard, Moïse, donc le peuple hébreu doit partir, mais ça nous le verrons dans le résumé de la Bible. Ici, on cherche quand interviennent les anges dans la Bible. Moïse est un saint prophète qui, plus de 450 ans après Abraham, 500 ans, naît après que le peuple hébreu, Abraham, Isaac, Jacob, Israël, ses 12 enfants sont partis en Égypte lors de la famine. Un des enfants de Jacob, Israël, Joseph, avait été vendu par ses frères jaloux. Dieu avait annoncé qu'il les nourrirait, qu'il serait leur providence. Et de fait, il est devenu leur providence. Il a été assumé comme premier ministre de Pharaon parce qu'il interprétait les songes de Pharaon. Vous avez tout le petit peuple, les descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui sont là, avec leurs serviteurs, qui vont en Égypte, et ils ont une vingtaine d'enfants par femme, les filles ont une vingtaine d'enfants, et une vingtaine d'enfants, et à la fin, 430 ans ou 430 ans plus tard, les Hébreux sont très très nombreux en Égypte du Nord. Seulement, ce sont des éleveurs, les Égyptiens n'aiment pas les crottes de bique et les galettes des vaches, donc c'est un métier pour intouchables. Et malgré cela, ils les persécutent alors que les Hébreux sont pacifiques. Et dans cette persécution, ils tuent tous les petits garçons hébreux, systématiquement. Et là, Moïse est sauvé des eaux, Moïse est sauvé de l'eau. Et donc Moïse va grandir, assumé par la fille de Pharaon, parce que sa maman avait mis le petit berceau sur le Nil, tout près de l'endroit où se baignait la fille de Pharaon. Il est élevé à la cour de Pharaon, il est lettré, il connaît très bien la religion satanique des Égyptiens. Tous les dieux égyptiens sont des démons. Faites très attention. C'est pour ça que dans la franc-maçonnerie, ils ont eu un très grand respect. J'ai vu dans un carnet de la Grande Loge Nationale de France, vous savez, c'est celle qui vous permet d'être chrétien. Et moi, je m'appelle Alfred. L'abbé Alfred. Oui. Eh bien, grand ordre égyptien. Hein, quand vous avez bien tamponné une série d'épreuves, grand ordre égyptien. Eh bien, Moïse, donc, va être choisi par Dieu pour sortir son peuple de la sorcellerie égyptienne et de la persécution pour retourner dans la terre d'Abraham. Et voilà comment s'est passé l'appel de Moïse. Livre de l'Exode, chapitre 3, 1 à 6. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. C'était des Sémites. Mais lui était parti dans l'idolâtrie. Mais c'est une idolâtrie très proche de la religion naturelle. Madian respecte le dieu de Moïse. Il emmena par-delà le désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. L'ange de Yahvé lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit: « Je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle, et pourquoi le buisson ne se consume pas ?» Yahvé vit qu'il faisait un détour pour voir et l'appela. Là, c'est Dieu lui-même. « Moïse, Moïse, dit-il, et répondit, me voici. » Il dit, « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Ces extraits qui ont été donnés par cette étude, c'est pour montrer comment Dieu intervient, comment Dieu fait vibrer l'air, comment Dieu passe par des anges ou parle lui-même directement. Dans le livre des Juges, c'est quand les Hébreux vont finir par revenir en Terre Sainte et que, avant de se choisir un roi, ils ont un système par tribu, par clan, et le chef du clan, le chef de la tribu, organise la prière. Prière qui est spécialement dirigée là où il y a le coffret des 10 commandements, du bâton d'Aaron, du pot de manne, de nourriture miraculeuse que les Hébreux ont eu pendant 40 ans, eh bien, ce sont les prêtres descendants d'Aaron, de la tribu de Lévi, qui offrent les sacrifices de Pâques, de l'agneau, et tous les autres sacrifices d'animaux devant l'arche. Dans les autres villes, les Lévites conduisent la prière et la lecture des livres saints, mais sans faire de sacrifice d'animaux, parce que ça doit être réservé devant l'arche. Un seul lieu dans tout le pays où on pouvait offrir l'agneau pascal et les autres animaux. Et les Juifs finissaient toujours par un peu copier les sacrifices humains des païens qui les entouraient. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé des juges, c'est-à-dire Samuel en dernier, mais vous aviez Samson, vous aviez Judith, qui est une femme, juge du peuple. Ici, l'ange de Yahvé monta de Gilbal à Bethel et il dit « Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai amené dans ce pays que j'avais promis par serment à vos pères. J'avais dit « Je ne romprai pas mon alliance avec vous. De votre côté, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays. Mais vous renverserez leurs autels. Or, vous n'avez pas écouté ma voix. Qu'avez-vous fait? Eh bien, je vous le dis. Je ne chasserai pas ces peuples devant vous. Ils seront pour vous des oppresseurs, et leurs dieux seront pour vous un piège. » Lorsque l'ange de Yahvé eut adressé ces paroles à tous les Israélites, le peuple se mit à crier et à pleurer. Qu'est-ce que ça veut dire? Et nous le verrons dans la Bible. Mais le peuple hébreu devait chasser les fausses religions à sacrifice humain et surtout de bébés. Et des adultes, c'est pas non plus extraordinaire. Et ils ne l'ont pas fait. Alors vous allez me dire justement, et ça on analysera plus tard, que les Juifs, si vous voulez, donc avaient une mission assez redoutable. La ville de Jéricho, il devait tuer tout le monde. Alors, quand vous lisez la Bible comme ça, mais vous vous rendez compte un peu tout ce que ça peut vous permettre en 2019. Mais non! Parce qu'à l'époque, les habitants de Jéricho étaient des Incas, des monstres, des gens extrêmement cruels. Et Dieu disait, n'ayez pas de contact avec ces peuples, car vous prendrez leurs habitudes. Et quand vous aurez Salomon, c'est-à-dire, 500 ans plus tard, 700 ans plus tard, Salomon finira par avoir des femmes païennes, et les femmes païennes demanderont à Salomon de faire un temple à la lune et d'égorger des bébés qu'elles auront eus avec le roi Salomon pour honorer la lune. Donc vous avez parmi les 300 femmes et les 700 concubines de Salomon, qui était devenu bien polygame, des femmes païennes qui disent « J'ai eu un bébé, mais puisque tu as environ une centaine de bébés, hein, est-ce qu'un bébé de plus, un bébé de moins, est-ce que je peux l'offrir à la lune ? Ou à Astarté ? Ou à Baal ?» Et là, Salomon, pourquoi pas ? Parce qu'il était dans les plaisirs, il était dans la folie. Et on dit que Salomon s'est converti avant de mourir, hein. D'où les livres sapientiaux, le livre de la sagesse, l'Ecclésiaste, c'est dit, j'ai tout goûté des plaisirs de la vie, j'ai eu toutes les richesses que je voulais, et j'ai été malheureux. Ah oui, il a été malheureux. Parce que quelle mauvaise conscience il devait avoir. Hein, on appelle un lieu où il y avait un temple où des enfants de Salomon ont été sacrifiés le mont du scandale. Voilà. Et donc là, Dieu reproche au peuple hébreu d'avoir des liens avec les peuples païens. Au fil de la lecture apparaissent des êtres distincts de Dieu et qui n'agissent que sur son ordre. C'est ainsi qu'il pose des actes comme dans Ézéchiel 40, verset 3. En ce jour-là, la main de Yahvé fut sur moi. Vous avez le prophète Ézéchiel, alors lui, des miracles, il en a eu toute sa vie. Des apparitions angéliques, il en a eu, mais alors, c'est lui qui a vu le tétramorphe, c'est-à-dire l'ange, enfin, la face d'homme, la face de taureau, la face d'aigle et la face, de lion, qu'on donne aux quatre évangélistes. Vous voyez. En ce jour même, la main de Yahvé fut sur moi. Il m'emmena là-bas et voici qu'il y avait un homme dont l'aspect était comme celui de l'airain, mais un bronze lumineux. Vous voyez, pas encore comme la croix d'autel de Saint Eugène, où je m'exténue à trouver des personnes pour la faire briller, mais je ne perds pas espoir. L'aspect était comme l'airain, donc, mais Ézéchiel a vu le Christ. Il a vu l'incarnation. Un homme, brillant, comme du métal brillant. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne à mesurer, et il se tenait dans le porche. Alors là, en l'occurrence, c'est une apparition angélique. Mais voyez-vous, à un moment donné, Ézéchiel verra un fils d'homme sur le trône de Dieu.